Est-ce que débattre est se battre avec des mots, des formules assassines, des arguments fatals? Est-ce que débattre, c'est dégainer l'exemple qui tue, mettre KO au tapis, celui, celle qui bataille et se prête à la joute verbale? Un débat, un pugilat, un affrontement, appelons cela la démocratie.
De vive voix.
Pascal Paradou.
À quelques heures du grand débat du second tour de l'élection présidentielle, tradition française depuis presque 50 ans, le regard éclairé et acéré d'un expert, docteur en sciences politiques et spécialiste de rhétorique va tout changer. Bonjour Clément Viktorovitch.
Bonjour.
Venez de publier un livre intitulé « Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours ». Et j'imagine que vous serez ce soir devant votre télévision pour assister au débat Macron-Le Pen.
Évidemment, très assidûment.
C'est important pour vous, ce moment-là ?
Alors, c'est un moment fondamental. D'ailleurs, plus que fondamental, il est fondateur, en quelque sorte, pour le quinquennat qui vient. L'impact de ces débats est très contesté sur le résultat de l'élection. On observe que jamais un débat d'entre-deux-tours n'a inversé une tendance dans un entre-deux-tours. En revanche, c'est un moment fondateur en termes symboliques pour le quinquennat qui s'ouvre. C'est le moment où les deux candidats qui s'affrontent pour nos suffrages se confrontent directement, s'affrontent. C'est une forme d'affrontement homérique, la conclusion d'un roman auquel nous assistons depuis maintenant des mois, le roman présidentiel. Et donc, il y a une importance qui est à la fois dramatique, au sens fort du terme, et puis symbolique. C'est le moment de la dernière confrontation entre les arguments devant les citoyens.
Mais c'est le citoyen qui parle là ou c'est l'expert en rhétorique ? Est-ce que vous allez l'écouter, ce débat, un peu différemment de moi, par exemple ?
Alors, évidemment, on le décrypte toujours parce qu'on en parle de ce débat. Cela reste dans la mémoire collective. C'est des moments de discussion qui restent dans la mémoire collective. Donc, c'est important de les décrypter, de les analyser. Une confrontation, c'est un moment technique, donc on peut en dire beaucoup de choses. Mais encore une fois, pour moi, l'importance est moins une importance politique en termes d'influence sur le vote qu'une importance symbolique. Et là, effectivement, c'est le citoyen qui parle. Et je pense que pour chacun et chacune d'entre nous, c'est important que nous soyons devant notre télévision, et nous le serons. D'ailleurs, c'est des débats qui sont très suivis, entre 15 et 20 millions de téléspectateurs en moyenne, parce qu'on sent tous et toutes qu'il se passe quelque chose dans notre démocratie.
Alors, on va voir avec vous, Clément Viktorovitch, comment décrypter ce débat. Mais votre livre étant un livre pratique, peut-être faut-il revenir aux sources et à la définition même de la rhétorique, parce que c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Si je dis c'est l'art de convaincre, est-ce que cela suffit ?
Oui, cela suffit, c'est exactement ça. La rhétorique, c'est l'art d'emporter la conviction à travers sa communication, qu'elle passe par l'écrit ou par l'oral d'ailleurs.
Par tous les moyens.
Oui, ça peut l'être. La rhétorique, c'est vraiment l'art de convaincre, présenter des arguments, présenter une image, présenter des émotions qui vont permettre de vaincre l'esprit critique de l'interlocuteur pour le convaincre d'adhérer à la proposition qu'on lui soumet à ce titre. La rhétorique, elle est partout. Elle est évidemment dans le grand débat de ce soir, mais elle est aussi dans nos réunions de travail, elle est dans nos dîners de famille, elle est dans les discours que nous prononçons nous-mêmes. Une scène de ménage, c'est de la rhétorique. Une négociation salariale, c'est de la rhétorique.
Et cela depuis très longtemps, puisque le grand théoricien de la rhétorique, c'est Aristote. Donc, on est en Grèce au 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais bizarrement, la rhétorique a mauvaise presse. Pourquoi ?
Elle a mauvaise presse parce que, évidemment, convaincre, c'est s'arroger un pouvoir sur les autres. Si je suis capable de porter ma voix et de porter mes arguments de manière à influencer mes interlocuteurs, j'acquiers sur eux de facto, de fait, j'acquiers un pouvoir. Donc, la rhétorique a mauvaise presse. Elle est auréolée de cette atmosphère de manipulation qui n'est pas totalement fausse. On peut utiliser la rhétorique de manière totalement non éthique. On peut utiliser la rhétorique pour passer entre les filets d'esprit critique de notre interlocuteur pour l'influencer sans même qu'il s'en aperçoive. Et ça, c'est critiquable. Si j'utilise la rhétorique de cette manière, je retire à l'autre une liberté fondamentale qui est la liberté de ne pas être d'accord. Et en même temps, la rhétorique, on en a besoin. On a besoin au quotidien de se mettre d'accord. On a besoin de se convaincre. Sinon, nous resterions des êtres atomisés, incapables de faire société, incapables de faire groupe. Donc, la rhétorique, c'est aussi un art totalement noble. C'est l'art de simplement trouver un consensus. C'est l'art de trouver une position qui nous agrée à tous.
Mais elle fait quand même débat parce que dès l'Antiquité, Aristote théorise la rhétorique. Platon considère que c'est un dévoiement de la parole. Et elle disparaît un peu au cours des siècles pour revenir au XXe siècle avec, dites-vous, le retour de la démocratie, mais aussi avec l'émergence des médias de masse, parce que la rhétorique suppose un auditoire. Et ça, c'est quand même assez fondamental, me semble-t-il.
Oui, c'est ça. Réfléchir à la rhétorique, c'est réfléchir aux personnes auxquelles nous nous adressons. Et en fait, c'est ça qui est passionnant dans la rhétorique, c'est qu'avec les mêmes outils d'analyse, on peut à la fois analyser nos conversations du quotidien, et puis un grand débat, et puis un meeting électoral, puisque au fond, tout est question des personnes auxquelles nous nous adressons. Et il est évident que si un orateur politique s'adresse à toute la France dans un grand meeting, il va parler d'une certaine manière, il va chercher des arguments qui peuvent parler à l'auditoire le plus large possible. Et à l'inverse, quand nous parlons à quelqu'un dans notre quotidien, nous allons chercher les arguments que cette personne-là pourra accepter. Donc, c'est en cela que la rhétorique est une discipline fascinante, parce qu'elle nous permet à la fois de comprendre le monde, la politique, l'actualité et en même temps nos interactions du quotidien.
Clément Viktorovitch, on est à quelques heures du grand débat, donc les candidats ont encore un peu de temps. Gagnerait-il à lire votre livre, qui est un livre pratique, on l'a dit, pour porter le coup fatal ou désamorcer quelques raisonnement frauduleux?
Écoutez, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, évidemment, je pense qu'ils auraient intérêt à lire mon livre.
Allez, on se dépêche.
le contraire serait de ne pas croire à ce que je professe moi-même. Non, mais c'est vrai que dans ce livre, j'ai consacré le huitième et dernier chapitre à l'art du débat, justement. Et j'ai essayé de dégager les grandes lignes stratégiques qui permettent de l'emporter dans un débat, qui permettent de naviguer dans ce que j'appelle le brouillard de guerre. Parce que, évidemment, que quand vous, moi et toutes les Françaises et tous les Français vont regarder ce débat ce soir, c'est un peu comme regarder un match de foot. On a toujours le sentiment de savoir ce que les personnes que nous regardons auraient dû faire. On a tendance à hurler devant notre écran en disant « mais enfin, il fallait répondre ça, c'est très facile ». Et ce que l'on oublie, c'est que quand on est immergé dans un débat, on est plongé dans un brouillard de guerre, on est plongé dans un moment d'incertitude où on doit à la fois écouter ce que nous dit l'interlocuteur pour être capable de lui répondre, garder un œil sur notre propre ligne argumentative pour ne pas perdre le fil de ce dont on veut convaincre. On doit réussir à penser aussi à des formules choc pour marquer l'auditoire. Et il faut réussir à faire tout ça en même temps. Et c'est ce qui amène les interlocuteurs et les interlocutrices à commettre des erreurs. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai essayé de dégager les grandes lignes stratégiques pour commettre le moins d'erreurs possible. C'est valable pour vous et moi dans un dîner de famille. C'est valable pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen ce soir.
Alors, si jamais ils n'ont pas le temps, on va leur proposer quand même ici dans De Vive Voix une rapide synthèse après avoir écouté Bertrand Burgala du haut du 33e étage.
Même si je sais que pour mon âge,
Bertrand Burgala, un titre pour prendre de la hauteur, ce que nous faisons aussi avec Clément Viktorovitch, qui enseigne la rhétorique, notamment à Sciences Po, et consacre à ce sujet un livre de vulgarisation intitulé « Le pouvoir rhétorique ». Donc, grâce à vous, nous allons, ici en France, mais aussi partout dans le monde, ce soir, pouvoir regarder le débat Macron-Le Pen d'un autre œil, ou plutôt avec une autre oreille. Il faut peut-être préciser la situation dans laquelle on se trouve. Si j'en crois votre livre où il faut identifier les différentes situations rhétoriques. Ce soir, Macron-Le Pen, nous sommes en situation de dynamique compétitive.
Oui, bien sûr, c'est une situation totalement compétitive, c'est-à-dire que les deux interlocuteurs vont s'affronter, ils vont chercher à se vaincre pour convaincre celles et ceux qui les écoutent de voter pour l'une ou pour l'autre. Et donc cette situation-là, c'est vraiment la situation dans laquelle on ne cherche pas à se mettre d'accord avec la personne qui est en face de nous, on cherche au contraire à prendre le dessus pour convaincre celles et ceux qui nous écoutent.
Et il faut que les candidats soient des interlocuteurs plutôt que des orateurs.
Oui, en l'occurrence, ils sont les deux. Un orateur, c'est tout simplement quelqu'un qui parle pour chercher à convaincre ou qui écrit d'ailleurs pour chercher à convaincre. C'est le paradoxe de ce concept qui est qu'un orateur peut être quelqu'un qui écrit, mais laissons cela de côté. Et donc, ils sont également interlocuteurs, c'est-à-dire qu'ils interagissent l'un avec l'autre.
Et en quels termes doivent-ils se parler ? Parce qu'on se souvient il y a 5 ans, puisque ça c'est le match retour, comme l'on dit, on se souvient il y a 5 ans d'une certaine agressivité de la part de Marine Le Pen.
Bon, alors là, on arrive dans le dur de la question, qui est de se demander qu'est-ce qui emporte la conviction dans un tel débat, qu'est-ce qui nous convainc. Et c'est le moment de dire quelque chose qui va paraître peut-être déprimant ou triste aux oreilles de nos auditrices et de nos auditeurs, qui est que dans un tel débat, de fait, ce que l'on observe, c'est que ce qui emporte la conviction, ce ne sont pas les arguments ou pas en premier lieu les arguments. Et je peux le démontrer de manière très simple en demandant à celles et ceux qui nous écoutent de repenser au débat d'entre-deux-tours précédent et d'essayer de se souvenir d'un argument qui a été employé dans un de ces débats. Il y a de fortes chances que personne n'y parvienne. En revanche, si je demande aux gens d'essayer de se souvenir d'une formule choc, d'une punchline, comme on dit aujourd'hui, là, tout ceci va venir à l'esprit. Donc, ce que cela montre, c'est que dans ces débats, ce qui est en jeu, c'est l'image des oratrices et des orateurs. L'objectif, c'est d'imposer une image qui va prendre le dessus sur celle de l'adversaire et permettre de renvoyer l'image la plus présidentielle possible.
Alors, personnellement, j'ai en mémoire cet échange de 88. On sortait de la première cohabitation, échange entre François Mitterrand et Jacques Chirac.
Je vous ai observé pendant 2 ans. Vous me donnez là un bien mauvais exemple. Mais je ne veux pas m'engager davantage. Moi, je continue à vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans, et que vous l'êtes. Eh bien, en tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez, et c'est bien juste de le dire, de très réelles qualités. Vous n'êtes pas celle de l'impartialité ni du sens de la justice dans la conduite de l'État.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Alors, qu'en dit le professeur Clément Viktorovitch ? C'est de la pure rhétorique ou je me trompe ?
C'est de la pure rhétorique et on est exactement dans ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire que dans cet extrait, qui est peut-être l'un des plus connus, sinon le plus connu des débats d'entre-deux-tours, il n'y a pas le début du commencement d'un argument politique. On est bien dans la pure image. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que ce dont discutent l'un et l'autre, c'est de leur statut. Autour de la table, nous avions déjà François Mitterrand, un président de la République, face à Jacques Chirac, un premier ministre. Et en fait, pendant tout le débat, François Mitterrand, simplement en s'arrogeant le droit de nommer son adversaire, de l'appeler Monsieur le Premier ministre, ce qu'il est effectivement, il le ramène à son statut de Premier ministre et en le ramenant à son statut de Premier ministre, il lui dénie une stature d'homme présidentiel.
Il vous est arrivé de conseiller un homme ou une femme politique, alors peut-être pas à ce niveau, mais un ministre, un chef de parti ?
Non, aucunement, jamais. On me l'a déjà proposé et j'ai toujours refusé parce que ce n'est pas mon rôle précisément. Moi, je me place du côté des citoyennes et des citoyens. Ce que j'ai à cœur, c'est de proposer à celles et ceux qui nous écoutent des clés pour justement décrypter les procédés utilisés par les responsables politiques.
Ce que vous faites avec votre livre, Clément Viktorovitch, il y a des éléments très, très pratiques.
pratique, vous expliquez par exemple qu'il faut façonner son texte. Mmh. Donc ça, c'est un des chapitres de votre ouvrage. Il faut choisir ses exemples, ses arguments, ses mots, ses figures de style, ça semble évident. On se souvient en tout cas du moi président de François Hollande, qui avait été très marquant. Là aussi, ça n'était pas un argument, c'était un jeu de stature. Mais en même temps, vous dites que les figures de style, il faut quand même s'en méfier un peu. Hein. Faut pas trop en abuser.
En fait, ce que je dis, c'est qu'une figure de style, elle est efficace quand elle n'est pas identifiée comme une figure de style. Si vous faites une magnifique métaphore, par exemple, très visible, très explicite, et que tout le monde se dit « Oh, il a fait une belle métaphore », vous serez peut-être respecté comme orateur. Mais il y a peu de chances que vous emportiez la conviction. Mais si vous faites une métaphore qui est tellement forte, tellement percutante, qu'on ne la voit même pas passer, et que tout ce que se disent les auditeurs, c'est « Oh !» Qu'est-ce que c'est beau ! Là, je suis impactant. Et le « moi, président de la République » de François Hollande, c'est intéressant, c'est une anaphore. On commence une succession de phrases par le même mot, le même groupe de mots. Et en fait, elle était assez lourde, cette anaphore, en réalité. Tout le monde la repère, c'est pas forcément très enthousiasmant. Alors, il a réussi à museler Nicolas Sarkozy en face pendant plusieurs longues secondes, pendant plusieurs minutes même. Donc, c'est en cela que la période est impactante. Mais en fait, la figure en elle-même était assez lourde. Nicolas Sarkozy, lui, structurait tous ses discours de meeting autour d'anaphores et on ne l'a jamais analysé. Pourquoi ? Parce que précisément, il maîtrisait cette figure à la perfection. Elle était puissante et on ne la voyait pas passer.
Et puis, dans les conseils que vous donnez, vous dites qu'il faut maîtriser la négation. C'est-à-dire qu'il faut peut-être pas trop parler du bilan, mais plutôt des perspectives ?
En fait, j'explique qu'il faut se méfier des négations néfastes, et ça, c'est quelque chose qui est important. Quand nous proférons un mot, ce mot produit ses effets. C'est un principe en linguistique qu'on appelle le principe de proférence. Proférer un mot suffit à produire ses effets, même s'il est dans une phrase à la négative. Et donc, la pire chose que pourrait dire ce soir Emmanuel Macron, par exemple, ce serait de dire « Mais enfin, je n'ai jamais menti aux Français !» Parce que même en disant cela, il prononcerait le mot « mentir ». Si Marine Le Pen disait « Mais enfin, je n'ai rien d'effrayant », eh bien, elle prononcerait le mot « effrayante », elle l'assumerait pour elle et ce mot produirait ses effets.
Et puis, on peut rajouter qu'il ne faut pas parler ensemble.
Madame Le Pen, on a compris. Bêtise.
Je vais au milieu d'eux.
Mais moi aussi,
je vais pas me
était.
Planquer dans
Pardon,
une petite
salle. Mais on, salle.
On a compris.
Là,
on a compris la grande différence qu'il y a entre vous et moi. On a compris. On n'a pas compris. On va pas passer trois heures sur Wikipédia. Vous avez décidé d'y aller parce que vous avez vu que j'y étais.
Demandez aux salariés.
Attendez, c'est inaudible.
Macron-Le Pen, c'était en 2017, hein, lors du premier débat animé à l'époque par Nathalie Saint-Cricq. C'est inaudible, mais chacun y va de son argument. Par l'exemple, je suis allé voir les ouvriers.
Oui, exactement. Alors, ce type de moment dans un débat, c'est très agaçant pour les auditeurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut être un moment nécessaire pour les orateurs. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui s'apprête à vous asséner un argument ou une phrase dont vous savez qu'elle va vous nuire terriblement, hélas, je le dis en le déplorant, mais hélas, une tactique efficace consiste à parler par-dessus. Et là, aucun des deux ne va vouloir lâcher le morceau. Et donc, on a ce type de séquence où, en fait, les deux orateurs se neutralisent l'un et l'autre. C'est très agaçant pour les auditeurs, mais hélas, d'un point de vue stratégique, ça se comprend.
Mais en matière de communication, il y aurait une règle selon laquelle la communication passe d'abord par la posture, les expressions faciales, la voix, et que les mots ne comptent que pour 7%.
Oui, c'est la fameuse règle d'Albert Mehrabian, selon laquelle nos mots ne compteraient que pour 7% de la communication. Alors, en fait, c'est complètement faux. Quand on reprend l'étude originelle, qui est une étude qui date des années 50-60, c'est deux études d'ailleurs d'un chercheur qui s'appelle Albert Mehrabian, on se rend compte qu'il ne dit pas du tout ça, je ne rentre pas dans le détail, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mesuré sur ses propres conclusions. Ce que l'on peut dire, c'est que les mots ont un impact capital sur les consciences. On le sait aujourd'hui, c'est une intuition très ancienne. Elle remonte à Aristote et il me semble qu'aujourd'hui, la psychologie le confirme. Par contre, ça ne veut pas dire que le langage corporel et que la prosodie, la manière que nous avons d'utiliser la musicalité de notre voix, n'aurait pas d'influence. Ça a un impact important, mais ce n'est pas 93% de la communication.
Oui, pas dans ces proportions.
Pas
Alors, dans votre livre, il y a donc des conseils pour convaincre, pour travailler son image, pour parler. Il y a aussi un chapitre pour reconnaître la tromperie. Alors là, je me dis, c'est absolument essentiel. Mais alors, il y a des quantités de possibilités de tromper son monde, comme on dit. Il y a l'option lacunaire, par exemple. Moi, je trouve ça formidable. Il y a aussi le sophisme de l'Écossais. C'est quoi le sophisme de l'Écossais ?
Alors, le sophisme du vrai Écossais, alors, c'est une manière d'écarter une objection à l'argument que l'on propose. Et donc, si je viens de dire, c'est l'exemple classique, si je viens de prononcer une phrase un peu ambitieuse, quoi, sans doute un peu fausse, qui consiste à dire, mais enfin, les Écossais portent des kilts. Et qu'en face de moi, mon interlocuteur me répond, oui, enfin, mon oncle Michel, il est d'origine écossaise et il porte pas de kilt. Et bien là, je peux disqualifier l'objection en disant, oui, mais c'est que votre oncle Michel n'est pas un vrai Écossais. Et c'est une manière de dire qu'un contre-exemple qui nous a porter ne compterait pas parce qu'il ne rentrerait pas dans la catégorie d'origine, alors que, ben, précisément, si.
Alors, vous avez décrypté le débat de 2017 entre les deux pour identifier, justement, des tromperies.
Des tromperies, il y en a sans doute eu, des sophismes, ce qu'on appelle donc des arguments déloyaux, il y en a sans doute eu. C'est pas cela qui marque les esprits en réalité. Ce qui marque les esprits, c'est vraiment, encore une fois, un jeu de posture. C'est ce jeu qu'a eu Marine Le Pen d'être extrêmement agressive, alors qu'un président ou une présidente doit se montrer rassembleur ou rassembleuse. C'est vraiment l'erreur qu'elle commet. Et il y a quelque chose que les gens n'ont pas trop analysé et qui est intéressant. Emmanuel Macron, en 2017, à plusieurs reprises, a répété dans le débat « Madame Le Pen, arrêtez avec ces jeux-là. Les Français méritent mieux que cela. » Et il avait le droit de dire ça. Les Français méritent mieux que cela. Il se contentait d'émettre un jugement sur le débat en lui-même. Et puis, après l'avoir dit 3-4 fois, Emmanuel Macron, à toute fin du débat, le redit. « Madame Le Pen, arrêtez avec ce que vous venez de dire. Les Français méritent mieux que ça. » Il laisse un silence, il dit « Les Français méritent mieux que vous. » Et là, il passe d'un jugement sur le débat, un jugement sur son interlocutrice. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle passer ad personam, passer sur une disqualification personnelle. Mais comme ça s'insérait dans une longue succession de phrases analogues, ça passait comme une lettre à la poste et c'était efficace.
Et en 2017, ils se disent ça aussi.
Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme. Bon, eh bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons, je suis la candidate de la nation qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la concurrence internationale déloyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste.
Le pays vous importe peu, vous n'avez pas de projet pour lui. Votre projet, c'est de dire au peuple français, cette personne est atroce, c'est de salir, c'est de mener une campagne de mensonges et de falsifications. Votre projet, c'est un projet qui vise à vivre de la peur et des mensonges. C'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui a nourri votre père pendant des décennies, c'est ce qui a nourri l'extrême droite française et ce qui vous a fait vous. C'est pour ça que je n'en veux pas pour mon pays, parce que la France que je veux, elle vaut beaucoup mieux que ça. Vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez, parce que vous en vivez, vous êtes son parasite.
Je rappelle que le débat ce soir est en direct et qu'il s'agit donc là d'un exemple de 2017, échange particulièrement virulent, 34 secondes chacun, égalité stricte du temps de parole. On est bien dans ce que vous décriviez, Clément Viktorovitch.
Oui, voilà, c'est une des occurrences dont je parlais, du « la France mérite mieux que cela ».
Alors, quand on entend cela, on peut se dire que les arguments utilisés il y a 5 ans pourraient être reproductibles cette année. Est-ce qu'ils peuvent répéter la même chose ?
Oui, en l'occurrence, je pense qu'on pourrait totalement entendre ces phrases-là ce soir, mais pour quelle raison ? Parce que, comme je le disais, on est directement dans de l'ad personam, dans de la disqualification personnelle. Ce que fait Marine Le Pen, c'est qu'elle se contente d'enchaîner des mots épouvantails, des mots effrayants, communautarisme, bon, je ne me souviens déjà plus exactement de mondialisation, bon, c'est des mots, elle parle à son auditoire, hein. Donc elle se contente de ramener Emmanuel Macron à un ensemble de mots épouvantails, donc c'est clairement une mécanique de disqualification. Ce que fait Emmanuel Macron, c'est intéressant, c'est qu'il commence par relever le procédé pour le disqualifier. Ce qui est un bon réflexe rhétorique, hein. Il suffit de révéler un procédé pour l'éventer en partie. Donc il dit, vous m'attaquez personnellement, vous n'avez que l'agressivité à la bouche. Et immédiatement après, il fait exactement la même chose en lui disant, mais vous nourrissez de la peur, vous êtes l'héritière d'une tradition de la peur. Et donc c'est exactement le même procédé qu'il utilise à son tour.
C'est ce qu'on appelle des concepts mobilisateurs.
Alors c'est l'inverse des concepts mobilisateurs, c'est des mots épouvantails. Les concepts mobilisateurs, c'est des petits mots qui plaisent à tout le monde sans rien dire à personne, des mots connotés positivement, mais qui sont totalement creux. Donc il y en a plein, hein, justice, liberté, bienveillance, mouvement, réforme, tous ces mots-là sont des concepts mobilisateurs. Les mots épouvantail, c'est l'inverse, c'est des mots qui sont très péjoratifs, qu'on peut envoyer au visage de l'interlocuteur sans qu'on ait besoin de les définir. On ne sait pas exactement ce qu'ils recouvrent, mais on sait qu'il vaut mieux pas y être associé.
Alors dans votre livre, beaucoup de conseils, on l'a dit, vous concluez quand même en disant que débattre, c'est faire l'expérience de l'incertitude et de la modestie. Donc on verra ça ce soir. Clément Viktorovitch, je ne sais si elle connaît toutes les règles de la rhétorique, mais je vous la présente, Lucie Bouteloup, elle a la tchatche.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal, bonjour Clément.
Bonjour.
Qu'allez-vous faire ce soir pour regarder le débat ?
Eh bien, je vais regagner mes pénates, bien sûr. Alors, c'est quoi les pénates ? Eh bien, Marie-Dominique Poré nous dit tout dans un instant, mais les enfants, eux, ils en disent quoi ? Cette fois-ci, ils sont un petit peu loin du compte, je crois.
pense que regagner ses pénates, ça veut dire retrouver d'anciens amis. Parce que pénates, ça me fait penser à potes. Et regagner, reprendre quelque chose qu'on a perdu.
Regagner ses pénates, genre, c'est revenir à ce qu'on avait, du coup, revenir à ses moutons.
Moi, je pense que regagner ses pénates, ça veut pouvoir dire regagner des points. Puisque regagner, regagner. Et pénates, ça fait penser à pont.
Pénates, moi, ça me fait penser à peine.
Ça veut dire quoi?
Qu'on a plus confiance en soi.
C'est la peine, je suis triste d'avoir perdu ces concours. Et alors, je regagne mes concours quand j'ai perdu.
Alors Marie-Dominique, difficile pour les enfants de connaître le sens de cette expression et encore plus de connaître l'origine. Il faut dire qu'encore une fois, cette expression, eh bien, elle ne date pas d'hier. Il faut carrément remonter à l'Antiquité.
Latine. Mais je ne vais peut-être pas donner tout de suite l'origine du mot pénate, quoique, si je la donne. C'était des divinités qui étaient d'abord étrusques, puis qui sont devenues romaines, qui protégeaient les biens du foyer. Alors pourquoi les biens du foyer? Parce que le mot pénus en latin, pénus penoris, désigne un garde-manger. Donc forcément, il y avait des images de ces divinités qui protégeaient la nourriture un peu partout, installées dans les atriums de toutes les maisons romaines. Donc ce sont des divinités qui permettent de s'alimenter et qui permettent en quelque sorte de donner envie de revenir chez soi.
Pénus, mais aussi pénitus.
Pénitus, c'est un latin qui veut dire à l'intérieur d'eux profondément. Donc c'est tout ce qu'on trouve ou tout ce qu'on aime à retrouver quand on retourne chez soi, dans son intérieur. On a envie de revenir chez soi et on a envie de se retrouver un peu, d'où l'expression que moi, ça m'a fait penser à l'expression home sweet home, c'est-à-dire on a envie de regagner ses pénates, d'être pour se retrouver chez soi et bien et heureux et avoir, on a envie d'être chez soi.
Alors, la locution a perduré au fil des siècles, oui, tout en perdant sa dimension religieuse. On aime retourner dans ses pénates.
Dans son chez-soi, dans sa famille. Et le plus bel exemple en est d'abord, bien sûr, Ulysse, qui lui a fait un très, très grand voyage, qui n'avait qu'une envie, c'était de retrouver son île d'Ithaque avec sa femme, etc. Et ça donne ce retour, en fait, au besoin de revenir chez soi, à ses racines, à son origine.
Rentrer au bercail.
Exact.
Rentrer au nid, on dirait.
Oui, rentrer au nid, bien sûr.
Alors, en Espagne, on dit que chaque hibou a son olivier. J'ai trouvé que l'image était,
oui, très jolie.
Était très jolie.
Oui.
Le bercail, on le retrouve aussi ailleurs en Europe, en Roumanie, par exemple. Mais c'est aussi le cas en Argentine. Quant aux États-Unis, on préfère gagner sa maison et sa terre. Return home and earth.
Oui.
Bref, tout un tas d'expressions qui évoquent la joie de regagner le foyer. Comme vous le dites, Marie-Dominique Poré, dans votre ouvrage, Être né de la cuisse de Jupiter et 99 autres expressions issues du latin et du grec et qui est paru chez First. Merci d'avoir quitté vos pénates pour me rendre visite dans la puce à l'oreille, qui est aussi un petit peu chez vous maintenant,
bien
on peut
sûr
le dire, après toutes ces années.
Et on espère surtout que par les temps qui courent, justement, c'est ce retour aux racines, ce retour au pays qu'on appelle avec un nostos, qui a donné la nostalgie, pourra être permis à tous ces Ukrainiens qui n'auront qu'une envie peut-être de retourner dans leur propre pays.
Eh bien, point de nostalgie entre nous, Marie-Dominique Poré. Merci beaucoup, encore une fois, d'être venue nous rendre visite dans la puce. Une puce que vous pouvez retrouver en podcast sur le site rfi.fr. À très bientôt.
À bientôt encore.
Merci à toutes les deux. Une référence ou une citation latine, un mot rare, Clément Viktorovitch, est-ce que c'est de bon ton dans un débat ou ça fait un peu trop arrogant?
Alors ça dépend de l'image qu'on veut renvoyer, ça permet évidemment de poser l'image d'un intellectuel, de renvoyer aussi à une langue d'antan, donc ça peut être une image positive, ça peut aussi être un peu ridicule si jamais le procédé est identifié comme tel, comme un procédé. Souvenez-vous, la première fois qu'Emmanuel Macron a dit c'est de la poudre de perlimpinpin, tout le monde a trouvé ça génial. Depuis, il en glisse un mot comme ça, un peu ancien, par interview, et ça peut commencer à ressembler à un artifice.
Donc on va faire la chasse aux mots ce soir. Merci beaucoup Clément Viktorovitch. Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours, est édité au Seuil. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation, et on se retrouve demain après une soirée formidable.